le monde il est beau, tout le monde y réagit.
Dans l'article du précédent billet, nous sont énumérées des promesses hypocrites et irréalisables, des mensonges délibérés, un opportunisme doublé d'un carriérisme décomplexé, ce portrait peu flatteur d'une gauche récupérée, la main sur le porte-monnaie, peut sembler de prime abord ne parler que très peu de militantisme. Mais ce qui est vrai en surface peut trouver des remous en profondeur. Et, parlons de radicalisation d'une certaine contestation, ces remous sont intéressants à analyser dans la mesure où ils jouent certainement un rôle important dans ce phénomène de radicalisation. Sur un plan purement humain d'abord, et malgré un usage qui tend de plus en plus à se normaliser, personne n'aime à se sentir manipulé et pas davantage trahi. Mais quand, de plus, ces usages concernent des points essentiels en termes d'amélioration des conditions de vie, la déception peut très vite muer en exaspération. Et celle-ci n'est jamais très loin de l'explosion de colère. Aussi, l'intérêt de ce texte réside-t-il dans l'énumération, justement, et presque incantatoire, des faits de dénigrement et de dédain à l'égard du peuple dont fait preuve actuellement la classe politique, et sans doute de façon pas moindre dans la suivante que dans la précédente. Ainsi, chaque nouvelle émergence se voit chargée de tous les fardeaux de la nation que la précédente s'est acharnée à cultiver. S'ensuit une sorte de course-poursuite sans fin où mensonges et accusations cherchent à diluer les éventuelles complicités qu'on peut pourtant facilement déceler entre de réputés ennemis de classe censés représenter des tensions sociales pour lesquelles ils seraient censés chercher remède. Cependant, si, pour une proportion significative d'une population désormais lobotomisée sur le plan politique, ces faits amènent à détourner l'attention de l'objet politique, il n'en va certainement pas de même pour ceux qui, dans la population, persistent à se maintenir dans la mobilisation. Ici, la lassitude et l'exaspération, comme le dit la fin du texte, pourraient amener à se mobiliser de façon plus frontale plutôt que d'attendre sans fin des changements, le plus souvent organisés afin que rien ne change, avec cependant deux risques majeurs, l'échec ou la récupération. Ce qui nous mènera dans le prochain volet à l'examen des dangers de récupération avec un texte écrit par Franck Poupeau et paru dans Le Monde diplomatique de novembre 2011 sous le titre « Des gens formidables ».
Lassés du simulacre démocratique et des organisations contestataires, des individus se regroupent et raniment la tradition communautaire. Avec quel horizon ? L'élaboration de contre-modèles globaux au système capitalisme fait l'objet d'une intense réflexion dans les cercles de la gauche radicale, souvent accusé bien injustement de ne rien proposer. Mais une autre tendance se fait jour depuis quelques années, la reconstruction de communautés décidées à rompre avec la société de consommation et la politique institutionnelle. On en trouve une bonne illustration dans l'ouvrage publié par deux militants de l'altermondialisme, Isabelle Frémaux et John Jordan, ce dernier étant un artiste connu pour son rôle dans le collectif Reclaim the Street, étendard des nouvelles formes de protestation au tournant des années 1990-2000. Ce livre-film, un documentaire-fiction accompagne le texte papier, se présente comme un itinéraire initiatique et exploratoire au sein de diverses communautés susceptibles de faire émerger un autre monde. Le camp climat, installé illégalement aux abords de l'aéroport d'Heathrow, en banlieue de Londres, hameau des Cévennes devenu une commune libre gérée par des punks, des usines occupées en Serbie, ou le Zentrum für experimentelle Gesellschaftsgestaltung, un camp de l'amour libre, sis sur une ancienne base de la Stasi, sont quelques-unes des étapes marquantes de ce récit politique et poétique dont l'écriture parvient à restituer les émotions suscitées par les rencontres successives avec des êtres, des mots et des choses. Si le choix des sites, diversifié et exemplaire, livre un panorama européen des utopies communautaires contemporaines, il est cependant difficile d'échapper à un sentiment ambivalent de frustration et d'irritation mêlée. Un peu comme face à ces acteurs lisses des séries américaines qui collent si bien à leur rôle qu'on attendrait presque avec impatience la première fausse note dans leur interprétation. La description des expériences alternatives suit la plupart du temps le même schéma narratif. Les deux explorateurs, à la fois voyageurs, écrivains, analystes politiques, artistes, bohèmes, bref, sans identité assignable, si ce n'est le fait, mentionné à la fin du livre, qu'ils ont vendu leur appartement à Londres, arrivent dans leur véhicule non identifié, pas un camping-car car trop vulgaire, ni une caravane trop familiale, mais un camion indéterminé, et rencontrent une personne formidable. Sauf événement perturbateur, incompréhension première ou contingence de leur petite histoire personnelle, heureusement vite surmontée. Cette personne formidable les fait ensuite pénétrer dans une micro-société formidable, parce que singulière, régie par l'entraide et le partage, coupée des flux de la communication marchande et des échanges intéressés qui sont le lot de la masse des consommateurs. Dans ces petits univers formidables, il y a évidemment des gens extraordinaires qui partagent des expériences hors du commun, de créativité artistique, de richesse pédagogique et de vertus politiques. Loin de montrer les potentiels collectifs de cet avenir possible qui scintillerait dans les brèches du présent, le livre ne brosse bien souvent qu'un tableau élogieux de ces individualités et de ces lieux formidables. Ici, pas de syndrome IKEA. Les maîtres mots semblent être récup, recyclage pour produire des habitations d'une individualité rare, lit-on, à propos des résidences d'artistes agriculteurs du village punk de la Vieille Valette. Ces gens formidables peuvent aussi bien écouter de la batterie hardcore que la flûte traversière la plus délicate. Et l'on se prend à espérer ne jamais les rencontrer sous peine de se sentir dérisoire face aux leçons de vie qu'ils pourraient nous dispenser. Des esprits mal intentionnés demanderont toujours qui voudrait sincèrement aller vivre dans une yourte ou affronter la grisaille humide du plateau de Mille Vaches en compagnie de militants intrépides. Pour ne pas réduire ces communautés à des sites de vacances vertes, la question est bien plutôt de savoir qui peut véritablement adopter ce mode de vie, notamment d'un point de vue économique, quand bien même la communauté reverserait les bénéfices du troc local réalisé avec les productions artisanales de ses membres, en échange de leur participation aux tâches collectives. Au-delà de la question politique, qui consiste à déterminer si, pour changer le monde sans prendre le pouvoir, on est condamné à partager son temps entre les assemblées générales et le jardin communautaire, il s'agit de se demander s'il faut obligatoirement appartenir à cette catégorie de gens formidables pour échapper à la domination. Les leaders charismatiques de ces lieux rétorqueraient que chacun se construit sa vie, dans une logique qui laisse de côté toute notion de lutte collective en dehors du cercle des initiés. Un rousseauisme qui renvoie moins aux rêveries du promeneur solitaire qu'au pessimisme d'une pensée politique limitant la possibilité d'une vie démocratique à des communautés restreintes. La masse représentant pour Rousseau le début de l'ingouvernabilité et des privations de liberté. Penser l'utopie à partir des expériences de communauté en rupture avec le reste du monde social? Dans les faits, cette tentation de la gauche contestataire semble se limiter à des formes d'expression culturelle, synthétisant de façon artistique les images d'Épinal associées à la révolte, sans la révolution. Dans la commune libre des Cévennes, note Frémaux et Jordan, l'aspect résolument post-industriel et bricolé, les formes éclatées et les couleurs outrancières de la sous-culture urbaine se mêlent de façon surprenante avec cette vallée isolée et luxuriante. Le poulailler de bois s'est vu rebaptisé commissariat à la peinture blanche, le vieux 4x4 brinque-ballant du collectif a été peinturluré de rayures noires et roses. Mais quelle issue ce kaléidoscope offre-t-il aux habitants de Damas, Nairobi ou Cochabamba ? Qui se font tirer dessus à balles réelles, ou tout simplement aux salariés licenciés qui luttent aux quatre coins de l'Europe pour sauver leur emploi. Quand on quitte les décors bucoliques de communautés caricaturales et facilement caricaturables, pour s'attacher, par exemple, aux occupations d'usines pharmaceutiques de Zrenjanin en Serbie, en réaction aux faillites forcées des privatisations, on retrouve hélas les mêmes tendances. Malgré la teneur apparemment très politique et collectivement organisée du processus observé, impossible d'éviter la formidable rencontre entre un leader hors du commun, un homme humble et généreux au charisme extraordinaire. Et si inclure une usine pharmaceutique au milieu d'un périple sur les utopies est décidément incongru, on peut se demander si c'est en raison de la nature de l'activité industrielle ou du type de lieu choisi. Un lieu de travail qui ne se réduit pas à un lieu de vie alternatif, artistique et contre-culturel. Pour défendre la dimension politique de ces expériences communautaires, il suffirait d'objecter que la césure actuelle entre ces mouvements et le monde social n'invalide nullement la possibilité de réunir avec succès ces deux univers. Défendant les utopies urbaines, squats autogérés et autres lieux alternatifs, comme des laboratoires où s'hybrident actions politiques et avant-gardes artistico-culturelles, le géographe marxiste David Harvey note la nécessité d'une vision de l'utopie pour orienter la transformation politique. Ronald Craig, auteur d'un livre fascinant intitulé « Utopie américaine » consacré aux expériences libertaires du XIXe siècle à nos jours, avance l'idée que les groupes rattachés aux mouvements communautaires rebelles aux règles communes expriment une grande diversité de formes possibles d'organisation sociale et parfois même de civilisation. Eux-mêmes se définissent aujourd'hui comme des communautés intentionnelles. Les participants ont délibérément choisi de vivre dans un même lieu. Ils rejettent un certain style de vie devenu la norme dominante en Occident. Ils construisent un autre type de société. Craig analyse ainsi comment ces utopies vécues, qui font rarement la une des médias, se sont succédées aux États-Unis depuis des siècles. Elles adoptent des conduites innovantes, par exemple en écologie, et leur façon d'agir essaime aujourd'hui dans le monde. Éphémères, ces expériences le sont presque par construction. Il faut à la fois conjurer les risques de disparition et éviter que la routine des structures oppressives ne reprenne le dessus. Certes, les pionniers des milieux de vie du XIXe siècle se posaient en modèle et ils espéraient susciter une masse d'imitateurs. Ils ont échoué sur ce point. Les expériences contemporaines s'abritent contre le déluge des informations et des servitudes du consumérisme. Sortir de la société de masse, comme seule façon de s'en sortir politiquement donc, l'historien lui-même doute de l'efficacité stratégique d'une telle doctrine. Ces micro-sociétés sont ultra-minoritaires. Elles constituent aussi, consciemment ou non, une réponse au mouvement de paupérisation des classes moyennes au sein des nations développées. Il est clair que le capitalisme peut s'accommoder et coexister avec des structures intellectuelles, morales et psychologiques fort diverses. En effet, la coexistence d'une domination globale et de niveaux locaux, plus ou moins autonomes, fait partie d'un système dualiste instauré par le capitalisme moderne. L'exploitation économique des secteurs, privés ou publics, les plus rentables, se combine sans difficulté avec une multiplicité d'initiatives permettant une gestion des pauvres, des marginaux, voire des peuples indigènes par eux-mêmes, avec la bénédiction de la Banque mondiale et d'organismes internationaux de coopération. La territorialisation de ces groupements communautaires, quand bien même elle serait en voie de se répandre dans les agglomérations urbaines, redouble alors cette logique globale sur le plan local. Ainsi, on cherchera en vain dans le livre de Frémaux et Jordan une expérience qui met en avant des processus politiques de diffusion, d'expérimentation collective au-delà des petits cercles communautaires. En somme, d'éducation politique, d'invention d'une utopie pour tous, pas seulement pour les gens formidables. Pour les auteurs, l'essentiel est ailleurs. Ce voyage nous a montré que nous ne sommes pas totalement pris dans le piège du capitalisme, conclut-il. Nous pouvons vivre dès maintenant comme si nous étions déjà libres. Plus nous aurons de temps et d'espace pour faire cela, plus nous aurons de chances que ces pratiques évoluent, se partagent et fassent partie d'un nouveau quotidien. Les idées inimaginables peuvent devenir réalité et circuler dans le monde à partir de ces laboratoires où on les a fait éclore. Les gens formidables rencontrés dans le livre sont à part, du point de vue des territoires comme des modes de vie. Or, la politique implique l'engagement des gens ordinaires dans les affaires de la cité. Dès lors, les expériences relatées n'engagent-elles pas un processus de dépolitisation ? À l'objection d'une échelle trop réduite pour se substituer à la force globale du système, capitalisme, Frémaux et Jordan répondent par l'effet de levier que constitue l'aspiration au changement des populations. Mais c'est pour finalement s'en remettre à l'horizon magique d'une commune des communes, ou d'une fédération des villes autonomes appuyée et facilitée par les techniques de communication contemporaine, avec pour vecteur essentiel la capacité à former des réseaux. Assurément, cela ne suffira pas à briser les forces sociales et économiques attachées à l'ordre établi. Car le commun tire son efficacité de ce qu'il est universalisable, extensible au-delà de la communauté d'initiés, dans les sphères où l'antagonisme entre travail et capital laisse entrevoir la possibilité d'un renversement.
Già 10 anni fa io vissi. scrivevo di per una volta ancora riprendo il mio cammino e un'altra per una volta ancora riprendo il mio cammino. Padre, da molto tempo non scrivevo più, gli anni sono passati ma io non sono cambiato, forse qualcuno potrà chiamarmi avventuriero, fino alla fine.
Yeah.